Je suis un pod. Oui, mais un pod libre.
Une petite annonce avant cet épisode. Nous avons enregistré pour la première fois en live dans la cave de l'apéro du Captain, ce qui a provoqué pas mal de soucis techniques. Suite aux demandes des auditeurs, nous publions comme cet épisode, malgré des coupures à répétition qui nous ont bien crevés, et la rubrique culture avortée par décès de mon MacBook Pro. Toute la partie sur les métiers du jeu vidéo avec D-Ren n'a pas été abordée et le sera dans l'épisode suivant. Si vous nous découvrez pour la première fois avec cet épisode, toutes nos excuses et commencez peut-être plutôt par le précédent qui est le spécial zombie, ou le suivant qui sortira dans un peu plus d'une semaine.
Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Bazinga!
Il ne se nourrissait plus, il s'est enfermé dans sa chambre 3 semaines durant en se prenant pour son avatar, un elfe de la nuit. Bazinga!
Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bazinga!
Citer Mediapart, qui se dit site d'information. Ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots. Bazinga!
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg.
Bazinga!
Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
Bazinga!
Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
Bazinga!
D'une manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
Bazinga!
Down in the trame is me and my baby, we're all going crazy, bug jumping and heaven.
Wouhou!
Ok.
Bienvenue dans Bazingcast.
Bienvenue dans Bazingcast 22.
Le premier en live.
Comme le nombre d'épisodes dans une saison des grands networks américains. 22 comme l'expression populaire.
Ouais, ça peut monter à 24, c'est complètement n'importe quoi.
Ouais, voire indique, à 26 certaines années. Hein.
Qui indique un danger, principalement illustré dans l'expression 22 v'là les flics. Et est-ce que vous savez d'où ça vient?
22 non. Quoi?
Je l'ai su à une époque, mais j'ai complètement oublié parce que c'est pas très intéressant.
C'est le transcodage du mot chef selon les numéros des lettres de l'alphabet 3 plus 8 plus 5 plus 6.
C'est complètement foireux aussi.
Pourquoi ils font pas 2 plus 2 du coup et ça fait 4 à la fin?
22 comme la ligne des 22 au rugby, spécial dédicace à Broche de Polygeek. Et 22 minutes comme la longueur standard d'une émission d'un épisode de sitcom, ça on est d'accord? 22 minutes.
Oh.
Sans les pubs.
Et 22 centimètres?
Avec nous ce soir, à ma gauche, nous avons Trollin. Salut Trollin.
Salut, je suis en face en fait, mais je suis presque à sa gauche.
Avec nous ce soir, nous avons Krilin. Bonsoir Krilin.
Bonsoir, bonsoir à tous, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, les 17. Voilà.
Merci beaucoup. Avec nous, D-Ren ce soir. Salut D-Ren.
Ah, salut.
Et enfin Micha. Comme
yo.
Qui était pas là la dernière fois. Bizarrement, elle s'est portée pâle pour l'épisode spécial zombie.
Non, mais je pensais à vous.
Bien sûr.
Je peux même pas dire que j'ai écouté l'émission parce que je l'ai pas fait.
Et nous avons notre animateur Piouf.
Ah, votre serviteur. Au programme de cet épisode ce soir, nous allons voir des news par Piouf. Nous allons avoir une rubrique de Krilin, une rubrique historique, il me semble.
Oui, on est sur l'épisode 23 ou l'épisode 22 là?
22.
Sur l'épisode 22.
Comme 22, là les flics.
Exactement, okay, t'as pas
donc
suivi l'intro.
Nous allons parler. Ah oui, c'est vrai que tu viens d'en parler pendant 5 minutes et c'était chiant. Excuse-moi, donc nous allons parler des fortifications françaises en 1870.
Ah, ça a l'air sympa. Et ouais. Enfin, une petite rubrique culture qui sera, comme on n'en parle pas assez souvent, certains s'en sont plaints, des films.
Ah bah oui.
Voilà, certains s'écrivent là. Beaucoup de remerciements en introduction de cet épisode 22. près de 80 commentaires pour le dernier épisode spécial zombie sur le blog. Donc on fait un gros merci, alors j'ai une petite liste.
Ouais, 80 au moment où on l'enregistre.
Exactement, après ce sera des centaines. À nos fanboys préférés du blog, Bruno Twitos, Bémantine, Will Nock, Poyo, Justin Chaumette, Arconium, Bloody Olive, Alan Kai, Yeti, Barberos, Choto, Tias Tias, Armos, Tao, Cybercake, Marc, One Eye Pied, Antichou, Gaudry et tous les autres.
Tiens, en parlant de Gaudry, t'en es où des cadeaux? T'as envoyé lesquels?
Et donc, la suite, nous avons donc un événement dont nous voulons vous parler. Non, les cadeaux arrivent, c'est juste que moi je t'avais demandé la liste des gens qui avaient gagné.
Parce que tu m'as demandé la liste des gens qui avaient
gagné. Parce que je m'en souvenais plus.
C'est toi qui gères ça, mon grand.
Un événement très important.
Gaudry, il t'a demandé trois fois. Mais j'ai bien compris, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné, tu lui as jamais répondu.
Oui, mais il faut que je tienne
le temps. Et depuis.
Non, mais il y a des mesures de sécurité dans Bazinecast. Ouais.
Depuis, il ne commande plus. Ça se trouve,
pour être à l'abri de la corruption.
Mais non, il ne s'est pas suicidé. Suite à la projection de Rencontre du Troisième Tic, qui a été un franc succès, 150 personnes apparemment, une nouvelle projection est organisée par Freepod et plus particulièrement Mr. D. Et cette fois-ci, c'est la trilogie Back to the Future pendant toute la nuit au Max Linder avec petit déj le matin.
Ah, je crois que j'avais un jingle pour ça en plus.
Et c'est le 10 décembre à minuit. Il y a un groupe Facebook où il y a une discussion d'ailleurs. C'est ce que ce sera en VF ou en VO. Donc c'est facebook.com/bttf.max.linder. Et vous pouvez participer au débat. Ou plutôt VO, plutôt VF pour Back to the Future.
Hein?
VO.
Ah, moi toujours VO, mais.
Tout en vélo.
Mais il y a quand même les gigawatts qui. Ça rappelle l'enfance, quoi. Mais...
Ouais, c'est voilà, un c'est film ça, qui est particulièrement bien doublé, quoi.
Ouais, il est excellemment bien doublé, et si tu veux retrouver toutes tes sensations d'enfance, la VF, ça marche vachement mieux.
On ne demande pas à Krillin parce qu'il n'a pas eu d'enfance, de toute façon.
C'est ce film-là où ils vont dans le futur avec une coccinelle ou un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça. Après, oui. Ils voyagent dans le corps humain, et après.
Ah oui, oh, l'aventure intérieure, c'était pas mauvais, hein. Je pense que ça a vieilli.
On compte sur toi, mon cher Trollin, pour checker ce qui se dit dans la chatroom pendant cet épisode.
Mais non, mais c'est comme d'hab, j'ai fait semblant de faire du boulot, mais en réalité,
j'ai du mal à regarder mes notes et en même temps à regarder ça, en fait.
Dans l'ensemble, ils sont d'accord pour que, surtout Poyo, pour que les films soient revus dans la même langue que quand on était petit.
D'accord, je suis assez d'accord. Diren, on va peut-être te présenter en quelques mots. Même si tu es extrêmement connu dans la podcastosphère française.
C'est ça, complètement. Totalement. Des gens me sautent dessus dans la rue pour prendre des photos et me demander des autographes.
On va parler très longuement de ce que tu fais dans le deuxième épisode de tout à l'heure. Mais déjà, est-ce que tu peux nous résumer ça en 2 secondes, qui tu es?
Ce que je fais, alors, je suis Diraine, je suis blogueuse, je m'incruste. Ma spécialité, c'est de m'incruster dans les podcasts des autres gens. Parce que j'ai essayé
pas mal,
de
hein.
faire le mien. Et pour l'instant, on a fait 2 épisodes. Mais un troisième va bientôt arriver. Donc, mon podcast à moi, c'est Coup Critique et on parle de jeux vidéo.
Mais nous, c'est pire, on n'arrivait pas à s'incruster chez les autres, donc on a dû faire le nôtre. C'est
ouais,
en mode clodo.
Ça demande beaucoup trop de boulot, en fait. Je préfère continuer à m'incruster. Et dans la vraie vie, en fait, je travaille pour un éditeur de jeux vidéo français. Vu qu'il n'y en a qu'un, c'est pas très compliqué. Et je m'occupe de la localisation.
Comment c'est pas vrai?
Comment?
Non, il y a un seul éditeur français.
C'est enfin, qui?
Non, il y a Focus aussi, c'est vrai qu'ils sont 2. Il y a Ubisoft.
Des gros, d'accord, il y en a que 2.
Et c'est le débat que l'on aura à l'épisode suivant.
Enfin bref, donc je bosse pour Ubisoft et je m'occupe de la localisation. Donc je récupère les contenus des jeux en anglais et je m'occupe de les traiter et les envoyer à qui de droit pour avoir des traductions et des doublages dans plein de langues.
À qui de droit, putain, comment elle parle, quoi?
Bah ouais, mon truc c'est la langue, tu
c'est
vois.
La langue. Elle a pas fait S comme nous.
Tu peux pas nous trouver un titre, Krillin, sur la langue?
Si, je regarde le catalogue de Marc Dorcel et je regrette de l'avoir déposé parce qu'avec tout ce qui se dit depuis le début...
En effet, nous enregistrons pour la première fois, c'est pour ça que c'est un peu le bordel, dans la cave de l'apéro du Capitaine, avec tout son folklore, ses collections d'art, et tout un passif de nombreuses années de podcast, et qui perturbe beaucoup, beaucoup Krillin.
Ah non, moi je suis juste mort de rire, c'est génial.
Et fasciné.
Et fasciné, oui, il touche à tout. Il voulait utiliser l'Arctibros tout à l'heure.
L'Arctibros, c'est avec le rectifrice fourni à l'intérieur.
Allez, on passe donc... aux news. Non, on va vous parler d'une étude de Cisco qui a été faite il y a très récemment sur 3000 jeunes dans 14 pays, dont la France. et qui est une étude qui porte sur les critères de choix des jeunes diplômés et professionnels. Voilà, alors les jeunes diplômés et jeunes professionnels placent en priorité le souhait devenu exigence de pouvoir se connecter et utiliser en toute liberté et indépendance les réseaux sociaux au sein de leur entreprise, ainsi que leur téléphone mobile, parfois même le niveau de salaire.
Je suis désolé, la phrase était trop longue, j'ai rien compris.
Je vais te résumer ça en quelques chiffres. D'après l'étude, 33% mettent en priorité la liberté d'accès aux médias sociaux, la flexibilité de l'usage de terminaux mobiles devant le salaire pour accepter un poste. 33%. 56%.
De toute façon, les gens ont conscience que de toute façon, ils ont un salaire de merde. Donc, à chaque fois, on nous dit « Ah oui, mais c'est la crise !»
Non, mais ça, c'est parce que toi, tu sais pas négocier que t'as un salaire de merde. Mais
oui, bah, depuis que t'es chef en entreprise, c'est plus simple de négocier ton propre salaire. Ouais,
ouais tu peux pas. 56%.
Qui est d'ailleurs payé par les ACEDIC. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment des fraudes aux ACEDIC.
Ah, ce n'est pas absolument pas une fraude. Moi, je suis totalement dans la légalité, mon cher. Je suis l'avenir de demain. 56% disent que s'ils rencontrent une entreprise qui bannit l'accès aux médias sociaux, ils déclineront le poste ou trouveront des moyens de contrevenir à la charte de l'entreprise.
81 dès le début, mais qui n'est même pas encore engagé. Non, mais je vais faire.
C'est un petit jeune.
Ah non, mais
conscient,
moi,
je
me souviens à l'époque où j'ai débarqué chez Sagem.
Ouais, mais en fait, t'es entré dans l'entreprise et tu t'es rendu compte que tu pouvais pas.
Oui.
Donc, t'as trouvé des moyens. Mais là, le mec, il est même pas encore engagé qu'il a déjà décidé que.
Ah, mais moi, c'est pareil. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises dans lesquelles je bosserai dans le futur, je trouverai un moyen d'avoir le net. De
toute
façon.
Tu comptes pas que ton affaire marche, tu crois que tu vas bientôt couler, c'est ça?
Non, mais on sait jamais. 81% des étudiants veulent choisir le terminal mobile de leur job. Et 29% considèrent qu'une fois qu'ils ont commencé leur vie professionnelle, ce sera un droit et non un privilège d'avoir la possibilité de travailler à distance avec des horaires adaptés. Donc là, il y a deux notions, la liberté d'usage du net, le fait de pouvoir choisir son téléphone et le fait de pouvoir télétravailler. Quel est votre point de vue là-dessus, Micha?
Moi, je trouve que les... Non, mais je veux dire, déjà, à l'entretien, tu ne demandes pas voir la charte de l'entreprise quoi, sur l'Internet. Mm-hmm. Donc, tu peux pas savoir si la boîte est ouverte ou pas sur accès.
Non, mais tu peux avoir décidé que si elle le fait, de toute façon, tu passeras outre.
Ça me paraît vraiment bizarre que. Ouais. Ah, ouais. Tu passeras outre, mais tu vas pas quitter la boîte pour ça.
Non, 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 mais de toute façon, si tu te fais embaucher, tu pars du principe que de toute façon,
tu vas trouver un moyen de contourner le problème, oui. Là, je suis d'accord. Mais moi, je trouve pas le besoin d'avoir accès aux réseaux sociaux au travail. Après, accès aux mails, oui, je suis d'accord, mais aux réseaux sociaux, moi, ça me manque pas.
Tu t'imagines travailler sans Facebook,
ouais.
Sans Twitter?
En fait, je travaille pas sans Facebook. Je travaille sans Facebook. Enfin, j'ai Facebook sur mon téléphone, mais je regarde genre une ou deux fois par jour au travail. Et je travaille sans Twitter. Je suis pas très actif non plus sur Facebook et Twitter.
Donc,
je suis peut-être un cas à part.
D'Irène. Est-ce que déjà t'as bossé dans une entreprise qui te bloquait ce genre
non.
de choses?
Moi, je travaille dans le jeu vidéo.
Chez des gens modernes.
Non, mais voilà, on a une ambiance de travail qui est super cool. Voilà, donc non, enfin, j'ai du mal à envisager, dans mon travail en tout cas, de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux. Et,
dans ton travail, dans le sens pour aussi faire ton travail ou...
Non, pas pour
vraiment
faire
comme
mon travail. Alors, travailler sans le net, ça, c'est pas possible. Après, j'ai pas besoin de Twitter, j'ai pas besoin de Facebook pour mon boulot. D'ailleurs, Facebook, j'y vais quasiment jamais. Par contre, Twitter, pour moi, c'est un moyen de décompression. C'est-à-dire que même quand je bosse beaucoup, beaucoup, et que j'ai pas le temps de suivre ce qui se passe sur Twitter, quand je suis sur le point de péter un plomb, je tweete un tweet taré, et après, je me sens mieux.
Ouais, c'est un défouloir, quoi.
Ouais, complètement. Donc ouais, non, je pense que j'aurais du mal à pas bosser avec Twitter.
Et
je pense que Anders Breivik, il aurait dû utiliser Twitter.
Donc Krilin, tu avais une remarque, toi, dans ton travail?
Moi, j'utilise pas les réseaux sociaux de toute façon, pour plusieurs raisons, notamment choix idéologique. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pas accès au net, ça me gonflerait. Mm. Ceci dit, je suis tout le temps sur Gtalk en permanence.
Ouais, Gmail et Google Talk, pour moi, c'est important.
Et c'est vrai que j'aurais du mal à... et je pense que je... Enfin, moi, je m'étais renseigné assez vite. La question de l'ambiance au boulot, notamment la politique internet qui est assez représentative de l'ambiance au boulot, c'était pour moi un point important, peut-être pas essentiel mais au moins important, qu'elle ait avoir une part dans ma décision. Donc c'est vrai que j'aurais sans doute fait en sorte d'avoir internet quand même, mais de toute façon dans notre boulot c'est complètement stupide de pas avoir internet. Donc
ah bah on connaît des boîtes quand même dans la technique qui
Ouais, on
filtre. Hein.
On en connaît, mais c'est du délire. Par contre, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai eu besoin de bosser plus violemment qu'il y a peu. Et la seule manière que j'ai trouvé, la première fois, ça a été de couper Firefox et de refuser de le relancer. Parce que Alt-Tab, c'est super rapide alors que... bon. Et donc là, ma productivité a déjà bien augmenté. Et la deuxième fois, j'étais sur un PC embarqué avec le même écran, enfin mon écran habituel. Donc pour revenir à Firefox, il fallait que je change la connectique de l'écran. J'ai réussi à rester 40 minutes sans répondre à un mail, ce qui est pour l'instant mon record.
On sait qu'il y a des outils qui te permettent ça, justement, de...
Ouais,
de,
des compteurs...
De bloquer certains logiciels pendant... ou même ton mailer, ou te le bloquer pendant
si
une demi-heure.
Mais si c'est important, tu sais jamais. Il y a plein de... C'est dur, en fait, de vous écouter et en même temps de lire ce qui se dit.
C'est pour ça que je l'ai coupé.
Il y a pas mal de...
c'est pour ça que j'écoute pas du tout ce que vous racontez.
Il y a pas mal de réactions par rapport à l'avenir de demain. Et moi aussi, j'ai tiqué. C'était l'avenir de demain.
C'est-à-dire que l'avenir d'hier, c'est plus compliqué.
Non, mais voilà, c'est exactement
je suis vachement plus loin. C'est pour ça
mais
je...
L'avenir de demain, ça veut dire que demain, t'es encore l'avenir. Donc déjà, exactement. T'es le présent d'après-demain. Donc c'est quand même une... Enfin, je veux dire, l'État, il investit à perte, là.
C'est tout. Je me suis fié à moi-même.
Mais tu sais que c'est le slogan de la campagne politique de Stephen Colbert, faire un meilleur demain, quoi.
Quand ce sera l'opposition. Trollin, et toi ?
Moi, j'ai jamais... travail. Si, j'ai été bloqué pendant un stage une fois. C'était vachement stimulant parce que j'avais pas grand chose à faire pendant ce stage et du coup j'ai passé tout mon temps à essayer de trouver des moyens de récupérer Internet. C'était très amusant. Moi, ça me paraît bizarre de bloquer Internet et notamment je supporterais pas d'utiliser par exemple Outlook pour lire mes mails. Je suis content d'avoir mon Gmail custom. Donc ça me paraît bizarre mais j'ai très très peu d'utilisation des réseaux sociaux, je trouve vraiment pas ça utile ou intéressant, du coup ça me gêne moyennement quand on me bloque le net.
Et par contre, pour revenir à tes stats là,
ouais.
Les réflexions sur le télétravail,
voilà,
ça je trouve, c'est pour moi en tout cas, c'est pouvoir télétravailler, c'est encore un privilège.
Ouais.
Et que la nouvelle génération considère que c'est un droit, je pense que ça va créer des petites tensions avec le monde de l'entreprise.
Déjà, ils vont se casser les dents parce que c'est clair que c'est pas encore le cas.
C'est vraiment un truc qui nous intéresse, nous, et comme le fait remarquer Bruno Twitto, si je dis pas de conneries, c'est typique de la génération Y, donc notre génération qui veut qu'on la câline un peu.
Ouais, le confort, quoi.
Voilà, enfin tout ça.
Non, c'est pas le confort, c'est la simple logique. Si je passe 3 heures de moins par jour dans les transports, je bosserai.
Oui, non,
ouais,
mais bien
ouais,
sûr.
Mais, bon.
Mais tu comprends, nos grands-parents, eux, ils ont connu la guerre, alors merde.
Non, bah, moi je comprends.
Et ça
pas,
dépend
je pense
aussi du type de métier. Hein, le métier
non, mais ça,
que
évidemment.
Tu as.
C'est clair que si t'es plombier, le télétravail, c'est plus compliqué.
Non, mais aussi la distance.
Ouais, mais c'est pour ça que ça se justifie dans certains cas.
Alors, est-ce que juste le télétravail, c'est pas un truc de parisien?
Oui, justement, enfin, c'est ce que j'allais dire, dans la région parisienne, quoi.
En province, quand tu mets un quart d'heure ou 20 minutes
en
pour
voiture,
aller à ton boulot en voiture...
Ouais, les provinciaux, ils connaissent pas leur
chemin. Non, il y a d'autres raisons au télétravail. Il y a aussi la raison que bah, tu peux avoir à t'occuper un peu de tes mômes en même temps ou être présent à la maison pour x ou y raison.
Ouais,
c'est
mais
ça que
pour
c'est un
ça, tu travailles à 4-5e ou...
Être là pour, pour accueillir tes colis de la poste... mais c'est clair que ça doit être assez parisien en même temps, t'as raison, parce que c'est là où on accuse des putains
ouais,
de temps
moi
de
j'ai jamais envisagé le télétravail avant de venir bosser à Paris, quoi.
Ouais.
Mais par contre, depuis que je suis à Paris, je rêve que de ça.
C'est ça.
Nous, c'est quand on t'annonce, ouais, demain grève ou
ouais,
demain
c'est
neige,
ça, c'est
tu vas peut-être
quoi.
Mourir en allant jusqu'au métro, tu fais putain, le télétravail, ce serait vachement.
Oui, non, mais déjà, les boîtes qui, au minimum, les jours de grève, disent pas tout le monde télétravaille.
Voilà, déjà, moi je suis sur c'est le RER B, donc.
Mais ça,
tout...
tu l'as choisi.
Oui, mais tout. Enfin, non, j'ai pas choisi ma boîte pour ça, mais tous les ans, quand ils nous font une grève terrible de une semaine à un mois, enfin pendant une semaine, il n'y a plus du tout de RER, il y a des fois, je négocie le télétravail. Et c'est un des rares cas où c'est accepté. Mais parce que, évidemment, je fais de l'électronique numérique, donc ça se compile. Donc c'est plus facile à faire passer par mail. Comme dit Bruno Twittos, le monteur à la chaîne par télétravail, c'est plus difficile.
Il faut des grands bras, quoi. Et sur le choix
on
du.
On peut voir pas continuer le live, hein, c'est pas possible. On peut pas se parler entre nous et lire toutes leurs réflexions.
Juste qu'il faut que cache l'écran. Et
non, mais en plus, ils disent plein de trucs intéressants. Enfin, certains, pas tous. Il y en a deux qui sont vraiment cons parmi eux.
C'est bon. Lesquels Ta-na-na.
Allez, cherchez-vous.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait qu'un seul qui.
Non, mais ils sont contents de se parler entre eux.
C'est le principe des chats de live.
On n'est pas des balances ici d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui demandent les noms.
Et sur l'aspect choix du téléphone mobile, bon, je sais que Krillin, il s'en fout. Est-ce que c'est important?
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Barberousse qui a dit que de toute façon tout le monde pouvait avoir internet sur le 3G. Et ben non, sur mon Nokia 31000 qui a quelques années maintenant.
31000.
Alors évidemment, il a le WAP, mais comme j'ai pas envie de le payer, le WAP.
L'archéologie de la mobilité
le
par Krillin.
C'est le toujours, mot que je pensais plus jamais entendre.
Limode.
Ah, j'ai eu Limode pendant des années. J'avais pas compris à quoi ça servait parce que c'était pas vraiment Internet.
Tu le payes, mais c'est pas vraiment Internet. Oui,
non,
donc
mais sur le
téléphone mobile.
Le téléphone mobile, moi je voudrais pas pouvoir choisir. Je voudrais juste pouvoir mettre un veto. Par exemple, tiens, prends un iPhone. Non.
Ouais, mais ça revient un peu.
Pourquoi
ouais.
Parce qu'il t'oblige à avoir un téléphone mobile dans
non,
ta boîte.
Non, mais il y a beaucoup d'entreprises.
Soit quelqu'un d'important et que j'ai besoin d'avoir un téléphone mobile.
Et ben pour t'interfacer, que le SI accepte de te configurer ton téléphone pour s'interfacer avec ton serveur Microsoft machin Exchange, bidule truc. Dans les boîtes, ils ont soit tous des BlackBerry, soit tous des machins. Et vient se poser la question, maintenant que le smartphone est important, du choix. Et voilà, moi je veux un Android, moi je veux un iPhone, moi je veux un machin. Bon, en même temps, personne ici est dans une boîte qui donne des téléphones.
On n'a pas un
Moi, je suis dans une boîte qui aide les créateurs de téléphones à les faire. Et Apple, c'est vraiment des gros cons.
Ce podcast est diffusé sur iTunes.
Apple. Je pourrais pas vous. Il faudra que je le coupe au montage. Mais. C'est vraiment des gros cons.
Aucun intérêt. Ah putain. Bref. Ok, donc mais plus je discute avec des jeunes à propos de ça et que j'ai déjà un peu en entretien et tout, il faut clairement que les entreprises commencent à s'y mettre parce que ça devient vraiment des critères vachement importants. Et en gros, les boîtes, si vous nous écoutez, si vous voulez avoir vraiment les bons, bah les bons ils s'achètent pas qu'avec du pognon et c'est
enfin,
ceux.
Les bons, c'est pas forcément ceux qui ont le plus envie d'avoir Facebook.
Ouais,
non. Bah, là, pour moi, c'est ceux qui vont être assez intransigeants sur ce genre de détails. Est-ce que je peux télétravailler? Est-ce que je peux avoir accès à. C'est eux qui vont se permettre de pouvoir dire non à un job grâce à ça ou de sacrifier un peu de salaire pour
Après, travailler. C'est pas parce que tu demandes d'avoir accès à Facebook que tu passes tes journées sur Facebook.
Non,
aussi.
D'accord.
Exactement. Mais.
Ça peut juste être par principe, quoi. Je veux pas que mon entreprise m'interdise de faire des trucs.
Ouais, mais quand t'as des principes, tu les mets pas dans Facebook, quoi. À la limite, tu demandes.
Non, mais là, on est en train de mélanger une conversation qui est. Parce qu'on est quand même un des rares podcasts avec la moitié des gens qui utilisent pas certaines technologies qui datent des années 2000 ou qui sont anti-réseaux sociaux.
Non, mais ça peut être autre chose. Enfin, juste. Ça peut être Gmail aussi.
J'ai bien compris.
Ça peut être Gmail aussi. Tu peux juste refuser par principe que ta boîte décide ce à quoi t'as droit d'avoir accès ou pas.
D'Irene pose ce gourde. Allez, news suivante. Qu'est-ce qu'il y a, Krillin?
Ça aussi, avec... c'était un titre de porno.
Oui, voilà, avec tous les trucs Mardorcel partout, parle pas de gourde.
Allez, news suivante. C'est une news cinéma. David Yates, le réalisateur des 4 derniers épisodes de la franchise Harry Potter.
Oh non, putain, quel connard!
Et de la série State of Play.
Quel connard ce
viendrait
mec
de mettre en chantier l'adaptation.
Il peut pas rester chez lui, quoi.
Au cinéma du Doctor Who.
Ah putain!
Donc
quel gros con. Déjà, ma copine m'a envoyé le lien et je lui ai répondu j'ai craint. Ensuite, j'ai lu et ensuite, j'avais raison. C'était encore pire que ce que je. Alors, le mec, déjà, il prend une franchise et il dit. Ouais, mais tout ce qui a été fait, c'est bien, mais c'est pour les autres, alors moi je vais reprendre du début. Non, mais je sais pas.
Non, mais c'est une façon de voir les choses. Ça se fait beaucoup dans d'autres domaines, ça s'appelle un reboot. Ça se fait dans énormément de domaines.
C'est un peu ouf de faire ça sur Doctor Who, qui est quand même. Enfin, c'est un des concepts de la série, quoi. Enfin, moi je suis pas fan de Doctor Who, mais je sais que Doctor Who, c'est la série qui continue depuis Methuselah.
Ouais, c'est pareil sur. Justement, c'est généralement sur les trucs qui durent depuis Methuselah, comme beaucoup de comics, que tu es obligé de faire des reboots au bout d'un moment parce qu'il y a tellement de trucs qui sont succédés que t'as pas envie d'avoir tout le passif du bordel.
Il y a quand même eu 20 ans d'interruption entre temps et ça avait plus ou moins été reboot en 2003.
Ouais,
c'est... Oui, mais ils ont reboot au milieu. In medias res, ils ont repris au milieu parce que l'idée de Doctor Who, c'est que ça n'a pas début, ça n'a pas de fin, c'est des trucs qui peuvent être pris dans n'importe quel ordre. C'est d'ailleurs pour ça que Stephen Moffat, il s'amuse bien à faire des épisodes qui sont situés avant ou ce genre de choses. Enfin, c'est pour ça que c'est marrant. Mais il y a un truc dont ils se sont rendus compte quand ils se sont mis à faire plein d'adaptations de comics qui marchaient pas. C'est que si tu veux faire un film qui soit intéressant, et notamment qui touche aussi des gens qui n'y connaissent rien, il vaut mieux reprendre du début. Parce que si tu reprends du début, t'as entre guillemets une histoire à raconter. Mais au final, le début de Doctor Who, est pas... enfin le début, pas le début de Doctor Who, mais le début de la mythologie Doctor Who, comment il s'est enfui avec son TARDIS... La guerre contre les Daleks et compagnie, c'est pas hyper intéressant. Donc je crains vraiment ce qui va. Ce
bah,
qui
la
va
façon dont ça a été fait, c'est pas. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il peut le refaire d'une façon intéressante. Justement.
Tous les éléments mythologiques du Docteur Who, c'est-à-dire son vaisseau qui se comment, qui peut se métamorphoser en n'importe quoi, mais malheureusement il est bloqué en mode cabine bleue, cabine téléphonique bleue. C'est des trucs qui font partie de la mythologie. Si tu les reboots, il n'y a pas de raison que ce soit une cabine téléphonique bleue au tout début de la série. Et si tu mets pas ça, c'est plus Docteur Who, quoi.
La BBC participerait à cette adaptation, donc il y aura un reboot. C'était un reboot, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est revenir aux origines de la série en oubliant tout ce qui a été fait et partir vers une nouvelle direction. Donc généralement c'est une façon voilà, de rediriger les personnages ou les remettre dans des situations où je viens, tiens, à cette époque, si c'était passé ça à la place de ça, comment ça aurait évolué. C'est très utilisé dans le domaine du comics, beaucoup chez les X-Men et compagnie. Nos amis de Culture Breakdown vous expliqueront ça mieux que nous. David Yates est donc très clair sur ses intentions concernant ce film.
C'est un gros con.
Russell T. Davis puis Stephen Moffat ont mis sur pied leur propre version du Doctor Who qui est fantastique, mais nous devons mettre tout cela de côté et repartir de zéro. Ils veulent réussir sa transformation.
Non, on a compris, je crois.
Ils veulent réussir sa transformation radicale qui lui permettra de s'imposer dans la grande arène, donc le cinéma. Une fois les acteurs trouvés, le travail de développement du script pourrait prendre 2 à 3 ans. Voilà.
C'est bon, tu peux encore espérer qu'il fasse un arrêt cardiaque ou un truc comme ça avant qu'il ait le temps.
Là vraiment, ce qu'il veut faire de Doctor Who, c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'il décide sciemment de virer tous les éléments
ouais, mais pour moi, c'est le principe
de la légende de la série.
Bah, c'est le principe d'un reboot, ça me choque pas plus.
Mais non, mais un reboot Superman, ils ont gardé son slip son collant.
Mais tu sais pas à quel moment il va s'arrêter. Enfin, je sais, c'est évidemment qu'il va garder le nom du mec, le fait qu'il vient d'une planète et le fait que machin.
Oui, mais... Ça n'a aucune importance en réalité. La série, ce qui est important, c'est pas le début de la série, c'est qui il est et tout ce qu'il a constitué au fur et à mesure qu'il s'est baladé de planète en planète. Et donc si tu dis, bon bah on va prendre au moment où il s'est pas encore baladé de planète en planète, il y a rien, tu prends juste son nom. Tu prends Gallifrey, tu prends Doctor Who, et puis c'est bon.
Ouais, qu'est-ce serait devenu ce personnage si jamais il avait pas eu ce problème avec son vaisseau et qu'il aurait pu se transformer en plein d'autres trucs différents? Qu'est-ce qu'il aurait fait?
C'est des
ou plein d'autres choses. C'est le principe du
Et
du,
si on passait à la news suivante, parce que le débat est extrêmement stérile.
Merci. News suivante. Une nouvelle loi sur
Attends, la précédente, tu l'avais pris juste pour me faire chier, parce que t'en as
oui,
rien à foutre.
Exactement, je ne regarde pas Docteur Who, c'était juste pour t'emmerder. Une news un peu sérieuse, c'est une nouvelle loi sur les livres indisponibles.
Pardon ?
Une nouvelle loi sur les livres indisponibles.
Ah.
Un projet de loi a été déposé au Sénat il y a environ un mois à ce sujet, et maintenant il a été déposé à l'Assemblée, un projet de loi qui est relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles au XXe siècle. C'est quand même assez spécifique. Pourquoi est-ce qu'on en parle ?
Je sens venir le truc relou. Je sais pas pourquoi.
Leur tempère sans le secours. En gros, ce projet de loi prévoit d'imposer une gestion collective, donc à la SACEM, genre façon SACEM, quoi, pour l'exploitation numérique des livres publiés avant le 15 décembre 2000 qui sont devenus introuvables dans le commerce, à charge pour les auteurs de faire obstacle à cette gestion collective dans les courts délais appartis. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bouquins qui sont plus disponibles, ou dont on ne connaît pas les auteurs, ou en gros qui sont devenus indisponibles, et ben automatiquement, c'est une nouvelle SACEM qui va s'occuper de gérer leurs droits.
Poyo a un très bon exemple de livre. Donc, c'est d'un auteur autrichien qui a été peintre à 16 heures, qui était aussi politicien.
Non, mais celui-là, il est réédité, il n'y a pas de souci. Hein.
Je sais pas s'il est réédité, si, et en si. Tout cas, il est interdit en France.
Ah non, elle a été levée l'interdiction de Mein Kampf en France.
Oh,
genre,
merde.
L'année dernière, où il y a deux ans, ça a été la polémique et tout.
C'est marrant, j'aurais cru que tu dirais un enfin, toi.
Bah non, mais ça veut dire que je les garde dans ma cave depuis deux ans pour
ça
rien.
Ça sert
quoi.
À rien.
Putain, mais... je suis une loi sur les bouquins et on parle de... ouais, oui, Irène.
Non, alors si je veux être sûre d'avoir bien compris ce que tu viens de nous expliquer, en gros, c'est si le bouquin il existe, enfin il est plus réédité, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? C'est-à-dire que tu pouvais trouver des versions numériques gratuitement sur
alors,
Internet.
Alors à l'heure actuelle, justement, pour protéger le patrimoine culturel et pour le rendre accessible. Les gens sont protégés, c'est-à-dire que si jamais la personne arrête de le publier, on considère que la population a toujours le droit d'avoir accès à l'œuvre. Donc, par
actuellement, c'est-à-dire, dans ce cas-là, comment s'il est plus publié?
C'est que t'as le droit de le copier et d'en faire ce que tu veux.
T'as le droit de le scanner et de le mettre sur Internet.
Voilà.
Et donc cette loi confirme un truc qui existait déjà.
Non, en fait, cette loi dit le contraire. Cette loi dit que tu n'as plus le droit de le scanner et de le mettre sur Internet.
Ah, tu n'as plus le droit, pardon, j'ai mal
compris. Mais que tu devras payer un espèce de droit de regard à une sorte de SACEM.
Et ça, c'est censé être confirmé par une loi européenne qui va être passée. Et d'ailleurs, on pense que la loi qui est en train d'essayer de passer en France, c'est pour court-circuiter cette loi européenne, qui justement confirme que... Alors, si je retrouve un peu mes notes. Le principe du projet de loi européen en cours de rédaction, c'est que les bibliothèques et les institutions culturelles et les gens en général pourront reproduire, numériser et diffuser ces œuvres orphelines dans le principe de l'intérêt général culturel. Et le principe du projet de loi qu'ils sont en train de mettre en place, c'est qu'il n'y aurait plus d'œuvres orphelines, parce qu'automatiquement, dès qu'une œuvre n'est plus éditée ou on ne connaît pas son auteur, eh ben, ses droits sont automatiquement gérés par la SACEM Bouquin. Et donc, la SACEM Bouquin qui a les droits, et donc tu ne peux plus appliquer la directive européenne parce qu'il n'y a plus personne sur qui l'appliquer, en fait.
Alors, je ne sais plus qui sur le chat a rappelé qu'ils avaient tenté de faire la même chose avec les images sur Internet. Enfin, il n'a pas dit ça, mais c'est la même idée. Ils avaient tenté de faire ça avec les images pour empêcher les images libres de droits sur Internet. Et c'est assez problématique à plusieurs niveaux, et notamment sur le fait que ça va faire chier le droit du libre, ça va encore enlever un droit à l'accès à la culture pour tout ce qui a disparu. Moi j'ai chez mes parents des très bons bouquins de science-fiction qui sont plus édités, qui étaient édités chez le Fleuve Noir à l'époque. C'est des trucs qui sont bien, et c'est le seul moyen en fait de les garder. L'auteur, elle est morte, donc voilà.
Le projet Google Books c'était un peu ça, c'était scanner toutes les œuvres, et tant que personne se plaignait qu'on les scanne, c'était de l'opt-out. Et tout le monde pouvait, Google les scannait, les rendait publics, et tu pouvais très bien sortir du système, ou s'il y avait des ayants droit, tu sortais du système, mais au moins toutes ces œuvres étaient disponibles à la population de manière scannée. Et en plus, Google le faisait gratuitement.
Mais rendre un truc illégal pour pouvoir le faire payer après, ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait avec le MP3, ils l'ont fait avec plein de trucs, bon, ça encore, on s'en fout, parce qu'on va continuer à diffuser des trucs. Avant, on savait pas que c'était légal. Maintenant, on saura que c'est illégal, mais on le fera quand même. Ce qui m'énerve le plus, c'est le principe de SACEM. C'est encore une manière de récupérer de la thune sur pas mal de choses, en disant bon bah puisqu'il n'y a pas d'auteur, on va quand même payer, mais ça va être à l'État qu'on va payer. Donc tous les gens qui ont produit des bouquins sur Internet qui les ont laissés gratos, ou toutes les œuvres anonymes, par exemple, pensons à tous les guitaristes débutants qui jouent Jeux Interdits. Maintenant, à chaque fois que vous allez jouer Jeux Interdits, vous allez payer du fric à Sarkozy.
Non mais en fait c'est ça le vrai problème, c'est que on met une espèce de SACEM, que ce soit pour les auteurs qui n'arrivent pas à trouver de maison d'édition. À la rigueur, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, c'est-à-dire que
l'argent est censé être utilisé pour aider la création, justement.
Ouais, mon cul.
Ouais, mais enfin, tu vois, encore, ce serait des... Alors, on a des auteurs qui n'arrivent pas à trouver de maison d'édition. On s'occupe en fait de récolter l'argent pour leur production. Ça me paraît pas aberrant non plus. Mais les œuvres anonymes, on récupère la thune pour aider la création, mais au passage il faut qu'on paye nos locaux, il va falloir qu'on paye les employés
de la SACEM.
Non mais voilà, c'est ça, on sait très bien comment
ça
se passe, quoi.
On sait bien tous les problèmes qu'il y a avec leur salaire, les locaux, les salaires énormes qu'ils ont tous et ils sont très nombreux, les nombreuses voitures de fonction qui vont très haut en puissance qu'ils ont, c'est du grand délire.
Non mais c'est ça, c'est s'ils récupèrent 100 000 euros, au final, il n'y aura plus que 10 000 euros qui va vraiment repasser dans la création artistique.
Et dans la délire. Création, ça va être 9 900 pour les auteurs et 100 pour les éditeurs et 100 pour les auteurs.
Surtout que d'après ce que j'ai compris dans le système, quand l'auteur ne se manifeste pas, ça peut être son ancien éditeur qui peut se manifester grâce à ce...
Le mec qui veut plus publier peut récupérer la thune ?
Non, peut regagner les droits. J'avoue que on va mettre des liens hein, parce que c'était assez complexe comme truc. Mais apparemment, ce que craignaient aussi les gens, c'était que ça devenait une sorte d'usine aux anciens éditeurs à récupérer les droits sur les œuvres d'un auteur avec qui ils n'étaient plus en accord. Enfin bon, ça a l'air d'avoir apparemment c'est un projet de loi très complexe. Il y a plein d'articles de blog à lire dessus.
Ce qui me fait marrer, c'est si l'auteur ne se manifeste pas. Moi, j'ai un bouquin sur le net avec mon nom. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont me contacter ou il faut que commence à m'inquiéter du fait que. Non mais voilà, c'est ça du délire.
Et si tu ne donnes pas de tes nouvelles dans les 10 jours qui suivent l'annonce à la publication officielle, c'est fini, ça ne t'appartient plus.
Exactement. Je crois que c'était il y a quelques mois. Je crois que c'est 6 mois. Je retrouve la valeur, le truc exact, mais ça.
Non mais t'es sérieux là ?
Ouais. Non mais tu t'as toujours le droit, mais le blablabla. Ouais, t'as un délai de quelques mois, je crois. Enfin bon, donc en gros, c'est surtout notamment les éditeurs qui seront au courant, pas trop chacun des auteurs, chacun dans leur coin, quoi. Bref. Surtout que généralement, enfin. Le droit d'auteur, il est quand même fait pour, à l'origine, pour payer un auteur pendant qu'il est en train de rédiger autre chose, quoi. Et là, par définition, une œuvre orpheline, bah, faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est pas. Enfin. C'est un système complètement archaïque. Et apparemment, politiquement, il y aurait pas mal de soutien. Et c'est présenté au Sénat et à l'Assemblée. Donc, il est fort probable que ça passe. Et c'est fait de manière assez intelligente pour que ça ne soit pas en opposition avec la loi européenne. Mais que ça la court-circuite de manière fort habile.
Il faut que tu nous repasses le catalogue Marc Dorcel. On a des auditeurs qui sont en train de se barrer pour aller regarder The Mentalist.
c'est horreur.
C'est la copine de Trollin. Ok. Bon, ben, on va en finir avec les news. Hein.
Ouais. Et on mais va c'est vraiment préoccupant, je trouve. Et le fait que ça n'ait pas fait de vagues comme ça a pu le faire pour les images libres, je trouve que c'est assez flippant.
Et surtout que, alors, enfin, on a retoqué Google Books qui avait certains principes à peu près équivalents, sauf que eux ne prenaient pas de thunes dessus et que c'était libre pour tout le monde, et que exactement les mêmes personnes font exactement le même système, c'est-à-dire qu'ils retirent autant de droits aux auteurs et qui spolient autant les auteurs, mais qui lui pompent un peu de thunes pour le donner à une sorte de SACEM, et là forcément ça passe vachement mieux. Et bon,
ce qui est
c'est vraiment la notion de gratuité qui les choque ces gens-là, je sais pas. C'est...
Tu parlais de les auteurs qui n'arrivent pas à se faire publier. Mais au final, aujourd'hui, on a moins ce problème-là avec les e-books. Le fait que les auteurs peuvent juste faire des livres numériques, ça leur coûte rien. Parce que c'était ça le problème, c'était le bouquin physique. Donc le e-books, c'est comme le MP3 il y a quelques années. Ça permet à n'importe quel auteur, notamment mauvais... de faire en sorte de donner à tout le monde accès à ces mauvais bouquins et pas seulement les mauvais auteurs comme Marc Lévy qui ont été sélectionnés, mais vraiment tous les mauvais auteurs.
Oui, mais de toute façon, même si t'es un bon auteur numérique, tu te coupes d'une certaine partie de la population parce qu'il y a plein de gens
qui
n'iront
si
pas sur
une
news.
Oui, mais si tu as... Il y en a un qui s'est fait énormément de thunes comme ça à vendre un bouquin pas cher et bon... Et donc, à mon avis, c'est comme Nouvelle Star, quoi. Ils voient qu'il marche, donc ils vont l'éditer. Alors évidemment, ça va marcher au début, parce que Nouvelle Star, ils ont très vite arrêté de leur faire des CD. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu deviens un auteur à succès sur le net avec tes e-books, il n'est pas impossible qu'un éditeur, qui sont généralement frileux à la base... qu'un éditeur te dise bon bah celui-là c'est une valeur sûre, enfin en tout cas sans être une valeur sûre c'est quand même quelqu'un qui a l'air de fonctionner, donc je vais prendre le risque de l'éditer un petit peu pour voir.
Ouais, mais comme c'est Marc Lévy qui explose tous les records de vente, ça veut pas dire que ouais, parce qu'il
Marc
a
Lévy
une,
et ses
une bonne fine base, c'est une bonne qualité de bouquin, quoi.
Ouais.
Donc ça résout pas le problème.
Ok, on va donc passer à la rubrique de Krilin, je crois.
Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30...
J'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres.
Nous proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité
lutte
permette de régler...
Je sais où tu te caches.
...des situations sécuritaires de ce type.
Viens ici que je te bute, enculé.
Parce qu'on s'aperçoit que l'ère de la calomnie, c'est aujourd'hui arrêté, tout simplement parce que c'est la vérité.
Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coups de cramage !
Et donc Krilin va nous parler des fortifications françaises en 1870. À toi, mon cher Krilin.
Oui, alors je retrouve ma feuille, parce que pour une fois, j'ai deux pages de notes. Et donc, voilà. Donc, l'histoire des fortifications françaises, en France, comme Marc Lévy, il y a un nom qui a tout pris toutes les étagères, et on parle que de lui, c'est évidemment Vauban.
Vauban.
Exactement. Putain, j'ai failli laisser le dire, mais je me suis dit, il n'y a que des incultes autour de cette table.
Ah, ça va quand même, Vauban, on peut pas le rater. Donc, c'était vachement avant, non ?
Bah oui, c'était vachement avant. Il a révolutionné la manière de faire et c'est resté quasiment jusqu'à aujourd'hui la seule référence. Les gens qui sont encore un peu plus cultivés, donc là j'ai aucune chance autour de cette table, vont se souvenir de la ligne Maginot. qui était une bonne idée. Malheureusement, tous les joueurs de StarCraft premier du nom savent que la défense, c'est pas le meilleur moyen de gagner. Mais en réalité, entre les deux, il y a eu un autre système qui est très intéressant, qui est le système serré de rivière. Alors, c'était en 1870, et est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1870
La guerre, monsieur.
Ouais, laquelle?
C'est le pire.
Les Prussiens.
La Prusse.
Ah merde, putain, ils sont au courant. Enfin, c'est vrai que toi, t'es un royaliste, donc tu dois bien connaître.
Ah, évidemment, c'était la bonne époque.
Alors en fait, en tout cas quand moi j'étais étudiant, donc ça commence à remonter malgré tout.
C'était en 1870 ?
Non, en 1970. Donc en gros, on passait de Napoléon à la Première Guerre mondiale. Donc Napoléon, on en a bouffé. La Seconde Guerre mondiale, on en a bouffé. La Première Guerre mondiale, un petit peu. Donc on sait tous que c'est l'archiduc Franz Ferdinand qui s'est fait buter et que voilà, ça arrive au... Bon. Je vais essayer, puisque vous êtes des ignares et que vous ne savez pas ce qui s'est passé en 1870.
Mais tu nous poses même pas la question à chaque fois.
Bah si, j'ai posé, et il y a eu un grand blanc, vous m'avez dit la guerre.
Je t'écoutais pas, je regardais le...
Bah oui, mais on a répondu.
Ouais, en gros. Bon, alors comme nos auditeurs sont des ignares, mais pas vous, pour essayer de bien vous resituer l'ensemble, je vais faire l'exploit de résumer 400 ans d'histoire en 4 minutes. Bon, vous vous souvenez tous de Louis XIV. Il a régné en gros de 1643 ou 54 suivant ce qu'on considère jusqu'à 1715. Donc bon, lui il est surtout il s'intéresse surtout à faire un gros château parce que il a des problèmes d'ego, voilà. Ensuite, il y a son arrière-petit-fils Louis XV qui va régner de 1715 à 1774, donc pendant 60 ans. Lui il fait pas grand-chose, il est pas trop méchant, mais il en a un peu rien à foutre. Et déjà, sous son règne, le peuple se met à grogner parce qu'il a faim.
On veut du pain !
Exactement. Et finalement, c'est le pauvre Louis XVI qui va prendre. Parce qu'en réalité, Louis XV, il aurait survécu 10 ans de plus, il serait fait guillotiner, mais c'est Louis XVI qui a tout pris. Alors Louis XVI, lui, il a régné de 74 à 92, sachant que la Révolution française a été en 89, bande d'ignares. Mine de rien, Louis XVI, on a beaucoup dit du mal de lui, qu'il y connaissait rien, que c'était juste un serrurier, etc. C'est assez faux. Au final, c'était un gros réformateur, mais trop tard. Et puis, il pouvait pas tout seul s'attaquer à tout ce qui était les nobles.
Ça me fait plaisir que tu vois tout le... Non, la richesse de la noblesse de France,
la formatrice. À la fin de la chronique, je vais essayer d'encourager les gens à revenir au franc. Donc 1789, Révolution française. Tout d'abord, on propose une monarchie constitutionnelle, donc au roi. qui va durer de 91 à 92. Ça se passe moyennement bien. Le problème, c'est que les révolutionnaires, Robespierre notamment, sont de plus en plus hardcore et que au final, ils préfèrent buter le roi parce que c'est plus rigolo. De 1792 à 1804, donc pendant 12 ans, c'est la première République française. Alors, elle n'est jamais déclarée, c'est-à-dire on dit jamais « c'est la République française ». Elle est complètement instable, il y a trois manières de diriger différentes. Donc d'abord, j'arrive pas à me relire, la Convention nationale, puis le Directoire, puis le Consulat. Et puis en 1804, c'est un quatrième régime, c'est l'Empire, puisque le général Bonaparte qui a monté de plus en plus haut dans cette première république, décide que c'est plus simple de revenir à un système un petit peu plus figé en prenant le pouvoir. Alors Bonaparte, donc 1804-1814, seulement 10 ans, on ne se rend pas souvent compte que c'est si peu de temps. Il nous fait l'Empire français et surtout ce qui est important, c'est qu'il révolutionne complètement la France au niveau administratif. Ça, c'est assez intéressant. 1814, il est défait, je sais plus où. Non, je crois que c'est il est défait à la campagne de Russie et donc il y a tous ses amis d'hier qui finissent par rentrer dans Paris et qui l'obligent à s'exiler. Donc finalement, Napoléon va revenir 100 jours en 1815, mais c'est assez. Enfin, il va pas se passer grand chose. Il va aller jusqu'en Belgique, il va se faire défaire à Waterloo, et puis là, c'est fini. Donc, si on oublie les 100 jours de 1815, quand il est défait, les Européens, donc les monarchies européennes qui obligent la France à revenir à un autre système de pouvoir, ils l'obligent à revenir à une monarchie constitutionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle la première restauration. Et puis donc c'est Louis XVIII, un cousin de Louis XVI, si je dis pas de conneries, qui revient. Et puis quand Napoléon revient, il se barre. Et puis quand Napoléon repart, il revient. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième restauration. Donc c'était un petit peu un couard. Louis XVIII, il est au pouvoir de 1814 à 1824. Puis lui succède Charles X, qui lui est un gros con. Donc Charles X,
l'histoire de France pour les nuls et les teubés.
Charles X, il est un petit peu conservateur, voire il revient, c'est un peu l'avenir d'hier quoi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a la deuxième révolution française en 1830 parce qu'ils en ont un petit peu marre, c'est la révolution de juillet. Donc cette deuxième révolution, plutôt que remettre un empereur ou une république, ils décident de remettre un autre roi, donc Louis-Philippe. C'est ce qu'on appelle la monarchie de juillet. Donc malgré tout, avec Louis-Philippe, ça se passe pas super bien. Et en 1848, troisième révolution. Et c'est là où ils vont se dire, tiens, on va quand même remettre une république. Donc je résume un petit peu. Hein. 1789, première révolution française. Il y a une république qui se passe pas bien. Ça se mue en empire. Ensuite, il y a une restauration. Donc à nouveau des rois. Il y a une révolution qui met un autre roi en place, et puis une troisième révolution, et donc là c'est la deuxième république. La deuxième république, 1848-1852. Et là, qu'est-ce qu'ils font comme conneries ? Ils élisent président Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte. Ils se disent pas, tiens, on est en train de faire exactement la même chose que la dernière fois. Et ben, puisqu'ils font la même chose, Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, fait un coup d'état en 1852, et donc devient à nouveau empereur, donc c'est le deuxième empire. Et il est empereur de 1852 à 1870. Alors Napoléon III aussi, on en dit beaucoup de mal, parce que Victor Hugo, que j'aime beaucoup par ailleurs, le détestait et était très actif dans sa détestation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon III, les 7 premières années de son règne, il a été assez dur, et ensuite, finalement, assez libéral. Donc, pour moi, c'est pas mieux, mais c'est un peu différent. Là où le premier Napoléon avait révolutionné la France administrativement, le deuxième Napoléon, enfin, ou le troisième, la révolutionne au niveau de la modernité. Donc, au niveau de l'industrie, de l'économie, au niveau de Paris notamment, puisque si Haussmann a pu faire tout ce qu'il a fait, c'est parce que Napoléon III le lui a permis. Donc c'est vraiment Napoléon III qui va faire passer la France à une ère moderne. Malheureusement, Napoléon III se sent obligé de se friter avec les Allemands. C'est plutôt que les Français et les Allemands avaient envie de se pogner la gueule depuis un moment. Et puis, lui, il a cédé, même s'il ne croyait pas. Résultat, il est défait à Sedan, si je dis pas de conneries, parce que je ne l'ai pas noté. Et il abdique. Donc la France est au pied de ces enfoirés de Prussiens qui nous prennent l'Alsace et la Lorraine.
Oh.
Donc, salauds. En 1870, est créée en urgence la Troisième République. Et c'est là où je vais revenir dans deux secondes.
C'est là où la rubrique commence.
Oui. Alors, cette Troisième République, c'est la fin, en fait, de la période complètement instable qui a commencé avec la Première Révolution, puisque là, la Troisième République va durer jusqu'en 1940, où, bizarrement, on a un petit épisode de 4 ans avec le régime de Vichy, puis un gouvernement provisoire, puis la Quatrième République, puis la Cinquième République, parce qu'il y avait un mec qui avait un problème d'ego. Mais en gros, depuis 1870 et la Troisième République, on a à nouveau un régime stable. Donc 1789-1870, 100 ans. Donc s'il faut la même chose pour les Libyens, les Tunisiens et compagnie, on va bien se marrer.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. L'ennemi de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, silence descendé au cercueil, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr.
Donc en 1870, c'est là où la rubrique commence. Qu'est-ce qui se passe ? Je change de feuille. En 1870, on est à la merci de ces enfoirés de Prussiens.
Culé.
Les Schleux. Et donc ils viennent menacer Paris. Alors à cette époque-là, nous on a des super forts Vauban, on a des murailles autour de Paris, sauf que les Prussiens ils ont des canons. Et qu'ils se foutent tout autour de Paris, et qu'ils bombardent, et qu'on ne peut rien faire. Donc au bout d'un moment, on se rend, et voilà. C'est à nouveau la paix, le problème c'est que... On s'est bien rendu compte qu'on s'était fait poutrer comme des merdes, et donc il faut absolument refaire un système de défense pour que ça ne recommence pas, parce que la Troisième République est chétive et que les Allemands ils sont vils et on peut pas leur faire confiance. Donc là où Vauban avait des citadelles imprenables en bordure des villes, le général Séré de Rivière, qui doit s'appeler Raymond Adolphe Séré de Rivière, quel beau prénom, lui il a comme idée de faire des forts sur des points stratégiques loin des villes qui vont servir de base à l'artillerie. Alors ces points stratégiques, c'est pas pour rien la manière dont il les choisit, c'est tout simplement là où les Allemands ont installé leurs canons pour bombarder Paris, enfin notamment pour la région parisienne. Là où les Allemands ont installé leurs canons pour bombarder Paris, ce sont des points super intéressants. Donc quand les Allemands se retirent, lui il va aller parler avec des artilleurs allemands pour savoir où ils étaient exactement, et c'est exactement là où il va mettre ses forts, parce que finalement les Allemands sont beaucoup plus intelligents que nous et ils avaient trouvé des super coins. Ce qui est très marrant, c'est que la France, enfin cette période là, 1870 jusqu'à en 14-18, c'est une période charnière où l'artillerie va être prédominante dans la guerre. Avant ça, c'était la cavalerie. Après ça, ça va être les blindés, le couple char-aviation. Puis aujourd'hui, c'est encore un petit peu différent. Mais 70-18, c'est vraiment la période où l'artillerie a été importante. Nous, évidemment, on l'a pas vu venir. Donc on avait des super bons cavaliers, notamment les cuirassiers, qui se sont fait désinguer, et malgré tout, nos troupiers ont rien pu faire contre le pilonnement des Allemands. Donc les forts vont essayer de pallier à ce problème de retard sur l'artillerie. Un fort serré de rivière a deux utilités. Déjà une caserne pour avoir des gens disponibles, éventuellement des chevaux pour les rares forts à chevaux, et surtout des plateformes d'artillerie, puisque les forts, leur raison d'être, c'est d'avoir des canons qui sont prêts et dont on a déjà précalculé où ils allaient tirer. C'est-à-dire qu'un canon, quand il est positionné, on sait dans quelle direction il doit tirer, avec quel angle pour toucher quel endroit. Donc si les Allemands reviennent, ou éventuellement les Espagnols, si les Allemands reviennent, à partir du moment où ils passeront à tel endroit, on pourra les pilonner facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc le système serré de rivière, c'est un ensemble de forts et de batteries. Donc les batteries, c'est des tout petits forts. Soit des forts en rideau, c'est-à-dire un ensemble de forts en ligne pour empêcher une avancée, soit des forts d'arrêt, c'est-à-dire un endroit qui va pilonner tout autour pour empêcher l'Allemand de passer. Et entre ces forts, des systèmes de communication visuelle pour qu'ils soient, pas isolés, même en cas de souci. Ces forts, ils sont simples. Ils sont faits tous sur le même plan, en série, ce qui fait que ça va les rendre beaucoup moins chers à faire. Et ils sont semi-enterrés pour justement résister à ces problèmes d'artillerie.
Ils sont vachement plus prévisibles aussi, s'ils sont tout le temps en série, c'est-à-dire qu'une fois que
l'ennemi
les connaît, il saura comment les appréhender pour la prochaine fois.
Oui, oui. Et d'ailleurs, les Allemands avaient la liste de tous nos forts sur... Enfin, ils les connaissaient
Google
tous.
Maps.
Google Maps, voilà. Mais l'idée, c'est pas tant de faire une citadelle imprenable, c'est vraiment de faire quelque chose rapide et qui soit efficace. L'idée, c'est un pentagone avec un fossé de 6 mètres de profondeur pour 12 mètres de largeur. Pour défendre ce fossé, il y a ce qu'on appelle des caponnières. Donc, ce sont des espèces de petits bunkers, même si c'est anachronique, qui vont avoir des meurtrières qui vont tirer justement dans le sens des fossés. Ils vont avoir deux types de canons, des mitrailleuses pour tuer les hommes et des petits obusiers pour tuer les engins qui voudraient essayer de passer par-dessus le fossé. Donc c'est tout simple, mais ça permet d'empêcher les gens, les ennemis, de rentrer à l'intérieur du fort, parce que le fossé de 12 mètres est quand même assez impressionnant. Quand il n'y a pas les caponnières qui permettent de défendre les douves, donc c'est-à-dire ces espèces de petits bunkers qui sont accessibles depuis l'intérieur du fort, il y a ce qu'on appelle des coffres de contre-escarpe. Alors là, c'est également des espèces de petits bunkers, mais qui ne sont pas du côté du fort, qui sont du côté extérieur. Donc, c'est-à-dire que l'Allemand, le Schlö, il arrive, il voit le fort, il voit pas de défense, donc il descend dans le fossé, et là, dans son dos, il y avait un mini-bunker avec des gens qui l'attaquent. Ça, c'est très sympa à visiter. Non, enfin, c'est très sympa aussi à buter, mais... Et donc, ces coffres de contre-escarpe étaient généralement reliés à l'intérieur du fort par des souterrains qui passaient sous les fossés. Il y a un système également de pont-levis, qui est en réalité un pont-levis descendant. Alors c'est super évident quand on le voit, mais j'ai la flemme d'expliquer.
Super.
Bon, ok, donc c'est un pont-levis descendant, c'est-à-dire que déjà il suffit juste de manœuvrer un tout petit levier sans force et automatiquement il se ferme. Et il est fait de telle manière que en réalité il se replie vers le bas, plus ou moins, ce qui fait que ça va être beaucoup plus rapide que si c'était vers le haut où il faut maniveler,
donc
etc.
En gros, il tombe en fait.
Il tombe plus ou moins. Il tombe en reculant. Il a un mouvement comme ça. Touk. Alors, c'est très visuel.
Oui, d'accord.
Voilà. À l'intérieur de ces forts, donc il y a la caserne. Et tout autour de la caserne, il y a les plateformes d'artillerie qui sont les parties intéressantes. Donc elles sont faites pour qu'il y ait plusieurs canons, qu'il n'y ait pas de tir direct contre ces canons. Il y a des traverses enterrées qui permettent d'avoir du matériel pas loin, etc. Un autre point intéressant, c'est les magasins à poudre, puisqu'à l'époque on utilisait encore la poudre. Alors c'est assez rigolo parce que ces magasins, pour avoir de la lumière, avaient des énormes vitres blindées. vers l'extérieur. Et à l'extérieur, on mettait des chandelles ou des lanternes. Mais donc, jamais le feu ne pouvait aller à l'intérieur. Donc, ils avaient bien prévu le truc pour pas avoir des gros soucis. Voilà.
Pas con.
Ouais, pas con. Et puis, évidemment, tout ce qui
surtout
était...
Surtout pour des militaires.
Oui, tout ce qui était cantine, etc. Plus tard, avec les progrès de la destruction, certains forts vont être un peu bétonnés. Et puis, il va y avoir des tourelles à la place, à la place des canons. Notamment la tourelle Mougin, qui est assez impressionnante si vous avez l'occasion d'en voir une. Donc au final, ces forts, qui sont donc militairement très intéressants, on connaît beaucoup le système Vauban, mais ceux-là sont vraiment très sympas à visiter. Ils servent peu, déjà parce que les Allemands reviennent pas tout de suite. Après 1870, ils reviennent pas. Ils reviennent seulement en 1914. Alors, on peut considérer qu'ils ont servi à rien. Maintenant, il y a beaucoup d'historiens qui considèrent que en 14-18, quand les Allemands ont commencé à bien nous rentrer dedans au début de la guerre, avant la partie des tranchées, ils ont marqué un moment d'arrêt pour faire venir des canons lourds de l'intérieur de chez eux. Et c'est ce petit moment de répit qui nous a permis de nous ressaisir, notamment avec l'épisode des taxis de la Marne, et donc de remonter jusqu'en Alsace-Lorraine, là où on s'est arrêté pendant deux bonnes années pour se faire la guerre à coups de tranchées. Donc, ils n'ont pas servi littéralement, à part ceux à Verdun, mais mine de rien, ils ont pu. On peut considérer que c'est eux qui ont fait suffisamment peur aux Allemands pour nous laisser la semaine qui nous a permis de nous refaire. Ensuite, en 39-45, ils ont été occupés souvent par les Allemands qui, en tant que dépôt de munitions, qui régulièrement ont fait péter les dépôts de munitions en partant, ce qui fait que beaucoup de ces forts aujourd'hui n'ont plus leur caserne. Alors, plus tard, ces forts, après 45, ont été utilisés différemment. On va dire un tiers, sont utilisés par l'armée ou la gendarmerie, encore aujourd'hui. Tout le reste a souvent été utilisé par des organismes de recherche. Par exemple, celui de Vaujours ou celui de Valenton ont été utilisés par le CEA. À Saclay, c'est le centre d'essais propulseurs. À Palaiso, c'est l'ONERA qui a complètement
niqué le fort. C'est une question d'isolation, une question de taille de locaux pas chers.
Tous ces gens-là, c'est des organismes qui descendent de l'armée à la base, ou plus ou moins, ou en tout cas du gouvernement. Donc c'était des locaux qui ne servaient pas nécessairement. Donc ça pouvait être utile. Notamment à Vaujours, ils se sont servis des fossés. J'ai peut-être dit douves, mais c'est très mal de dire douves, c'est pas des douves. Ils se servaient des fossés pour faire des...
C'est pas grave.
Ça me rassure. Pour faire des explosions d'obus en uranium appauvri, donc en air libre, comme j'ai parlé dans le numéro 1. Et notamment Thomson CSF a utilisé le fort de Buc, ça c'est assez connu, le CNRS dans le bois de Verrières, l'ONF aussi gère pas mal de ces forts aujourd'hui, donc ouais, au fort du trou de l'enfer à l'ouest de Paris, l'ONF élève des faisans pour les chasses présidentielles. Et puis, au fort de Daumont, il loue ça à des organismes privés, plus ou moins des pompiers, qui ruinent leur fort en foutant le feu aux caponnières pour des exercices. Parfois, ils ont été cédés aux communes plus tard, c'est assez aléatoire, et les communes, souvent, n'ont pas su quoi en faire, donc beaucoup de ces forts se sont retrouvés abandonnés, soit par l'armée, soit par les communes, soit par les organismes. Donc, Ceux qui sont visitables officiellement, je vais parler que de la région parisienne, déjà parce que c'est ceux qui m'ont intéressé, et puis parce que faut bien faire ce qu'on peut, on est 12 millions, donc voilà. Ça. Donc Cormeilles-en-Parisis, donc au nord-nord-ouest de Paris, si je dis pas de bêtises. C'est un fort, celui-là je ne l'ai pas fait, il est assez joli, il lui reste sa caserne, qui est l'extérieur est vraiment beau. Et celui de Sucy-en-Brie, donc là à l'opposé au sud-est de Paris. Le fort de Sucy-en-Brie est vraiment superbe. Alors malheureusement la caserne a sauté, Mais pour tout ce qui est défense autour de l'entrée du fort, les caponnières, etc., voire même les plateformes d'artillerie, c'est encore tout à fait... ça a été restauré, c'est vraiment génial à voir, c'est vraiment très sympa. Pour tout ça, il y a des visites gratuites, ou gratuites, je sais plus. Je crois que c'est gratuit. Le premier dimanche de chaque mois, à 15h, c'est sans rendez-vous. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a un exemple de batterie, donc petit fort qui a été restauré, pas pour la visite, mais pour utiliser pour les associations par la ville, donc c'est à Guyancourt, c'est la batterie de Bouvier. Si vous passez autour de Guyancourt, allez la voir, au moins d'extérieur, je sais pas s'il y a de visite, mais ce qu'ils en ont fait, c'est assez superbe, donc ça sert, je crois, d'école de musique, plus ou moins, enfin c'est assez chouette. Et après, il y a quatre projets dont je vais parler qui sont plus ou moins incertains. Notamment celle qui est la mieux restaurée pour l'instant, ou le projet le plus avancé, c'est la batterie de la Pointe à Palaiseau. C'est vraiment une petite batterie qui est superbe. Il y a justement un système de coffre en contrescarpe, donc accessible par un souterrain. Il est visitable aux journées des patrimoines. Allez-y, c'est vraiment un des deux plus beaux que j'ai vus. Enfin, celui-ci est beau, mais il a été restauré. Celui-là, il est en cours de restauration, mais c'est vraiment le plus beau si on ne prend pas en compte la restauration. Et donc, ils sont en train d'essayer, les gens de Palaiseau, une association de Palaiseau, de le restaurer petit à petit pour en faire plus ou moins un projet associatif, social, etc. C'est vraiment un projet intéressant. Ils ont besoin d'argent, donc plutôt que de nous donner de la thune à nous, enfin, n'hésitez pas à nous donner de la thune à nous. Je mettrai dans les liens et références un lien pour pouvoir adhérer à leur association. C'est vraiment un petit bijou. Donc aidez-les, ou au moins allez voir aux Journées des Patrimoines cette petite batterie qui est très sympa.
On mettra les liens sur le blog de Freepod, de Bazingcast.
Ensuite, il y a le fort de Villiers qui était utilisé par des associations, mais le maire a fermé le fort pour essayer de revendre à des promoteurs. Donc là, les gens de Villiers-sur-Marne sont en bras de fer avec la mairie. Ils ont marqué des points, donc ils ont plus ou moins fait, ils ont fait modifier le plan local d'urbanisme pour empêcher le maire de faire des conneries avec. Alors donc, le fort est fermé maintenant. Après, s'il y a des gens qui arrivent à rentrer dedans, ça c'est une autre histoire. Il est assez joli à visiter, il y a quelques trucs sympas. Mais surtout, le plus beau des forts, malheureusement complètement à l'abandon, c'est le fort du Haut-Buc, donc à Buc, au sud-ouest de Paris. Un fort qui est immense. Là aussi, des associations ont essayé de faire revivre le fort, mais ça a été complètement abandonné, la mairie a tout fait planter. Celui-là, là encore, il n'est pas visitable, mais s'il y a des petits malins, trois petits points. Il est superbe. La caserne est encore complète, elle est belle, mais alors si vous allez vous perdre dans les souterrains, plusieurs demi-heures de marche dans le noir, et d'un coup vous arrivez, vous êtes dans une pièce de trois étages souterraines sans accès extérieur. Vraiment, le fort du Haut-Buc est vraiment superbe. Je préfère quand même la batterie de la Pointe qui est plus petite, plus condensée, mais le fort du Haut-Buc est très sympa. Et puis évidemment il y a le CEA de Vaujours qui reste inaccessible, mais qui était sympa pour d'autres raisons. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 1 qui était consacré à ça notamment. Voilà, donc
encore de l'urbex alors.
Éventuellement, pas nécessairement, vous pouvez les visiter normalement, mais que ce soit en urbex ou en normal, ça vaut le coup. La batterie de la Pointe, allez pas les faire chier en urbex, ils ont assez de problèmes de gens qui essayent de leur voler du matériel, allez les voir à la Journée du Patrimoine. Mais vraiment, c'est une partie de l'histoire française qui est peu connue et qui est pourtant très intéressante. Donc j'espère que j'aurai réussi à vous intéresser à ce point.
Mais juste petite question, est-ce qu'il en reste en province en fait ?
Parce que... Oui, il y en a beaucoup. Là j'ai parlé que des forts d'Île-de-France parce que c'est ceux que je connais. Mais il y en a partout en France. Il y en a certains qui sont ouverts au public. Il me semble qu'il y en a un dans les Pyrénées qui était assez superbe. J'avais vu les photos qui maintenant a été sécurisé et ouvert au public.
C'est pas celui qui avait servi de prison à Pétain ?
pas que je sache.
Ah bah bravo, après tu nous critiques la culture.
Ah moi je préférais Pierre Laval, je trouvais qu'il avait plus de couilles.
Oui, je crois qu'ils y étaient tous les deux.
Oh putain, en temps. Ça a dû être électrique. Non, je sais pas exactement, je sais qu'il y en a partout sur le territoire, mais voilà, je connais que ceux autour de Paris. Et ça vaut vraiment le coup. Là aussi je mettrai des liens toujours sur le site basingcast.com.
Ok, merci, on mettra des liens, puis sûrement des petites photos aussi pour illustrer ça un petit peu. Et on est à la bourre, donc on va passer à la rubrique culture.
Et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine des téléspectateurs vraiment passionnés, ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées, ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
Culture. Et donc dans cette rubrique culture, nous allons parler de films. Est-ce que tout le monde a réfléchi à un film ?
Non.
Un film.
Alors à la base, moi j'avais proposé à Piouf, chacun parle d'un film qui l'a marqué, mais comme Piouf s'est mis à tout stresser, à dire oh, mais je peux pas choisir, c'est pas
clair,
possible.
C'est dur.
Alors, c'était genre votre film préféré ou je sais plus.
C'est un film qui vous a marqué.
En 2011.
Littéralement ce que j'ai écrit.
J'ai beaucoup de mal, je l'admets, à essayer de me souvenir des films que j'ai vus déjà et ensuite à. À en choisir un par rapport aux autres, enfin, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé juste de me rappeler un des films que j'avais bien aimé cette année. Donc Micha, oui.
Oui. Moi, oui. 2011.
Moi j'ai quelques...
N'importe quand.
Ah, oui,
Irène, une petite idée d'un truc dont tu veux parler.
On va en trouver un.
C'est clair.
Alors on va qu'à commencer par Mich.
Micha. Et tu te rappelles ce que t'as dit? On est bientôt à 100 commentaires sur un article. Et tu te rappelles ce que t'avais dit que tu faisais?
Mais moi j'ai rien dit
sur Facebook.
Je veux préciser que moi j'ai rien dit, j'ai rien proposé.
Et c'est quoi le défi à 100 commentaires? Parce que moi je suis pas.
C'était pas. C'était à 1000. C'était 1000 likes sur Facebook.
C'était 1100.
Bah, elle avait aussi dit
Micha
en étant bourré.
Micha me montre ses 100.
Mais à 100
commentaires.
Me montre.
Oui,
à moi.
Bien sûr, bien sûr.
Mais non, c'est sur le live. On met la vidéo exprès.
Bon, les enfants, on est grave à la bourre. Donc, Krilin, t'as qu'à reprendre le flambeau et nous parler du film dont tu parlais.
Ah oui, voilà, Krilin. Ah, et moi, je parle un deuxième.
Sur le chat, il demande de parler d'Inception.
On dit pas Inception, on dit Inception, déjà.
Et je suis français,
Inception,
moi, monsieur.
Ça m'a pas mal marqué, hein.
Bon bah je peux commencer si vous voulez. Faut que je me rappelle du titre du film dont je voulais parler. C'était Winter's Bone. Winter's Bone,
oh.
C'est...
Non mais vas-y.
Winter's Bone, c'est un film qui est sorti cette année, non?
Oui, je pense.
2010 ou 2011.
2010 peut-être, je sais plus.
Qui est un film américain qui a été nommé à beaucoup pour beaucoup de récompenses. C'est l'histoire d'une jeune fille et de ses frères et sœurs. Qui un jour sa mère est Alzheimer, je crois, et leur père disparaît. Ils sont au fin fond des États-Unis. Leur père disparaît et ils ont en gros la jeune fille qui est l'héroïne doit absolument essayer de réussir à retrouver son père pour éviter d'être expropriée, etc. Donc une histoire, un scénario pas forcément accrocheur comme ça. Mais ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est l'ambiance et la façon dont ça se passe, ça a fait beaucoup penser à la série, ça s'appelle comment déjà la série Trollin qui se passe au fin fond des US avec notre cher
Justified,
voilà, c'est exactement beaucoup de ça. Tu vois la grosse nana dans Justified, celle qui distille son alcool elle-même et qui est la mama locale, là, c'est que ça, c'est-à-dire que c'est que du fin fond des Amériques bien profonde du je sais pas quelle région.
Ça aussi, c'était un titre dans le catalogue Marc Dorcel.
Des paysages assez ouf, des gueules un peu partout, assez sympa. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui est bien costaud et qui va essayer de naviguer un peu dans toute ce marasme pour essayer de retrouver son père. Et ça s'appelle Winter's Bone et c'est très bien.
Je voulais dire que je suis d'accord, c'était très très bien. C'est un film indépendant américain qui, enfin ça change quoi, un film américain qui est pas blockbuster, mais il y a pas que ça. Ça me rappelle aussi, c'est un film d'ambiance qui me rappelle le film d'un Français là qui a fait un film sur Nouvelle-Orléans. Comment il s'appelle ? Tu te souviens le film
Il y en a beaucoup.
Non, récent. Bon, bref,
bon, en tout cas, on nous dit qu'en plus, ça fait un petit budget, 2 millions d'euros.
Un film, oui, d'ambiance, où il joue plus sur l'endroit...
Pas de Trémé ?
Non, pas Trémé. Bon, bref.
Très préparé.
Ouais, bon, c'est très bien, voilà.
Ouais, il y a 2-3 scènes un peu violentes,
avec des
un
très
peu
bons acteurs, ouais.
Mais ça n'a même plus à Micha, donc voilà. Winter's Bone, on vous le conseille.
Ça me rappelle... d'autres films que j'ai vus, et malheureusement je me rappelle plus du titre, je pourrais le retrouver. Mais puisque tu parles d'Amérique profonde, il y a les très bons, il est repassé il y a pas longtemps, Brokeback Mountain, qui finalement est tout copié sur la route de Madison, sauf que sur la route de Madison et hétéro. Les deux films sont bons et non, mais sinon c'est la même histoire, hein, quasiment.
Ouais, ça change pas mal de choses quand même.
Oui,
je te montrerai.
Donc les deux sont assez sympas et montrent aussi une Amérique qu'on voit pas souvent dans les films de merde, le mec qui a fait
on est
oh, la vache.
On a que des trous.
Le mec qui a fait quoi, parce que le mec qui a fait
le truc, Monsieur Explosion là.
Ah, Michael Bay.
Voilà, ça change un peu des films de Michael Bay.
Ah, oh. Dans, non.
Vas-y, vas-y, vas-y,
encore en train
de chercher.
Non, mais il y a le mot brume dans le film du Français.
Non, mais oui.
Que des brumes.
C'est avec le vieil acteur américain qui jouait
dans
Fugitif.
Dans la nuit brume, non, c'est pas ça.
Dans Fugitif, dans.
Vas-y, que je t'éclate la charge brume.
Black, dans.
Ouais, Tommy Lee Jones. Trois enterrements.
Non, brume.
Il joue un flic du
dans
FBI,
la brume électrique.
Ouais,
ah,
c'est ça.
C'est
dans
ça.
La brume électrique.
Je l'ai trouvé tout seul. C'est pas
bon,
du
là,
tout
c'est...
Bruno Twitos.
C'est pas le même type d'Amérique profonde. Enfin, c'est quand même très très pauvre dans Winter's Bone, mais c'est pauvre à la campagne.
C'est pauvre intellectuellement.
Ouais. Non, mais même.
C'est l'Amérique.
Dans Winter's Bone, c'est très pauvre. Mais dans la brume électrique, c'est pas pauvre, quoi. Enfin, bref.
Non.
Mais c'est un film d'ambiance. C'est.
Ouais, c'est vrai que ça me faisait un peu penser à ça.
Je sais pas quoi dire. Mais voilà, vous allez louer le DVD.
Oh la vache, ça c'est lâche sur le chat. Krilin, donc tu avais un
chat,
film.
C'est génial, on se fait moins chier en enregistrement.
Krilin, t'avais un film dont tu voulais parler ?
Ah, déjà,
donc,
moi,
c'est ton idée
de parler une demi-heure.
Oui, je sais, bon, on s'en souvient.
Ok, alors 97, quelle bonne année. C'était il y a 15 ans déjà.
Attends, on peut deviner ?
Ouais, vas-y.
Non, mais vas-y, continue.
Donne-nous
des indices.
Non, mais
Titanic. Matrix.
Donc, il y a deux choses très bien qui se sont passées en 97. C'est Fallout, déjà. Et dans un tout autre registre, donc un film d'Andrew Niccol.
Non.
Continue.
Avec Ethan Hawke, Jude Law.
Gattaca.
Jude Law.
Oui. Bienvenue à Gattaca.
Exactement.
Ah, bienvenue à Gattaca.
Donc, bienvenue à Gattaca, ou Gattaca en anglais.
Mm. Et moi, j'ai pas besoin du chat pour trouver la réponse.
Wow.
Oh, il y en a un qui dit Matrix, quoi, la loose.
Non, mais il l'avait dit avant. C'était au tout début.
Ah, d'accord. Donc, Andrew Niccol, c'est celui qui a écrit le scénario du Truman Show, qui l'a vendu, et grâce à l'argent, il a pu réaliser Bienvenue à Gattaca. C'est lui également qui a fait Lord of War, connu, qui a aussi fait Simone, qui n'est pas connu... parce que c'est nul. Et là, je viens d'apprendre qu'il est en train de sortir un autre film avec Justin Timberlake, mais qui doit s'appeler Timed Out ou un truc comme ça. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs à Gattaca.
Et il paraît qu'il est pas mal.
Bah, j'espère
Justin
beaucoup.
Ou le film.
Bah, les deux,
les
en
deux
fait,
quoi.
Que le film est pas mal et que étrangement,
mais j'ai vu
Justin
la bande annonce 5 fois.
Pas mal aussi.
Ah oui, j'ai vu la bande annonce 5 fois
c'est,
ce truc-là.
C'est
ça a l'air
dans
pas
un
mal.
Futur où l'argent donc, n'existe plus.
Ah bah
c'est
si,
le temps,
vu,
c'est le temps que tu vends tout à fait.
Donc voilà, donc Andrew Niccol, j'ai beaucoup d'espoir dans Time Out justement parce que Andrew Niccol a fait le film qui a longtemps été mon film préféré à l'époque où j'étais assez jeune pour que ça ait une signification.
Je pense que je l'ai vu plus d'une quinzaine de fois. J'étais un petit peu monomaniaque à une époque.
En effet.
Donc, avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, qui à l'époque n'était pas beaucoup connu, et une super musique de Michael Nyman, celui qui a fait notamment la musique de La Leçon de Piano. Oui, Piouf.
On nous dit qu'il a aussi fait Lord of War.
Oui, oui, c'est ce que je l'ai dit
tout à l'heure. Ah, d'accord.
Donc l'histoire de Gattaca, c'est dans un futur proche, la génétique n'a plus de secret, et donc même s'il y a encore des gens qui se risquent à faire leur gamin naturellement, la plupart ils donnent leur gamète à un laboratoire qui y modifie ce qu'ils veulent pour que le gamin soit plus beau, plus intelligent, vive plus longtemps, plus efficace et compagnie, et qu'il ait plus, pas besoin d'enlarge leur pénis plus tard. Les gamètes sont améliorées et puis ensuite on fait le bébé et puis voilà, donc ça fait une société d'hommes parfaits. Donc tous les gens qui sont nés de manière naturelle au final se retrouvent discriminés, même si c'est interdit. Mais évidemment quand tu as quelqu'un qui est juste normal et que tu as quelqu'un qui est né entre guillemets parfait, tu vas plutôt embaucher quelqu'un de parfait. Donc tiens, j'aurais pu noter le nom des personnages, j'ai oublié, alors je vais faire semblant, je vais dire. Donc Ethan Hawke, lui, il est né normalement et son rêve, c'est de voyager vers les étoiles. Problème, il a des lunettes, ce qui est déjà la preuve que c'est une pauvre merde et probablement un problème cardiaque. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais si les raccords voix sautent tout le temps, vous saurez que c'est parce que on a eu des problèmes tout du long. Donc pour ça, il va prendre contact avec un mec plus ou moins du marché noir et donc il va s'associer avec un mec parfait entre guillemets, sauf que il est en fauteuil roulant, c'est Jude Law. Et donc Jude Law va lui prêter sa peau, son sang et compagnie pour qu'il puisse se faire passer, pour que Ethan Hawke puisse se faire passer pour lui et se faire embaucher donc chez les spationautes.
J'ai une question un peu con.
Ouais.
J'ai pas vu Gattaca en entier. Mais pourquoi Jude Law, il est en fauteuil roulant s'il est parfait?
Parce que.
Un accident de voiture, je crois.
Un accident en tout cas. Donc voilà. Bon. Et donc tout ce film, ça va être l'histoire donc de Ethan Hawke qui va essayer d'arriver à se faire envoyer dans cette mission tout en déjouant les contrôles de sécurité, sachant qu'il y a un souci, il y a un meurtre sur son lieu de travail, ce qui fait que les flics arrivent et commencent à soupçonner tout le monde. Donc là où il était relativement peinard pour se faire passer pour un autre, là il va y avoir beaucoup plus de contrôles, etc. Le thriller en soi est intéressant, l'histoire est intéressante, mais ce qui moi m'a vraiment touché, c'est tout le reste. Déjà la réalisation pour moi est superbe, il y a un jeu sur les couleurs, sur l'architecture, le lien avec la musique. Le jeu des acteurs est tout en fausse retenue, c'est-à-dire que quand Uma Thurman et Ethan Hawke se font la course, c'est tout sur des non-dits. Notamment il y a un dialogue à la fin avec le médecin qui est un double monologue et qui est juste sublime. Enfin, c'est vraiment beaucoup de... Enfin, c'est vraiment bien joué. Le doublage, moi, m'a pas choqué. Alors, le problème, c'est que je l'ai vu 15 fois à l'époque où je regardais en français, donc je sais pas si aujourd'hui il tiendrait encore la route, mais pour moi, le doublage est bon et vraiment, le film est touchant. Donc les relations entre les gens, etc. Donc vraiment un film moi que j'ai trouvé superbe. Bah pour l'instant je crois que je connais quasiment personne qui n'a pas aimé ce film. C'est un film qui est passé relativement inaperçu. Je pense que ça vaut le coup de le voir. Je sais pas si vous l'avez vu.
Il est passé inaperçu, mais enfin après tout le monde le connaît. Enfin hein. Il a eu quand même un gros succès dans la sphère geek quand même.
Ouais.
Même si Irène ne l'a pas regardé jusqu'au
pas
bout.
Pas en entier. Il y a un moment j'ai eu un autre truc mieux à faire. Et oh je me suis dit, je verrai la fin plus tard.
Oh là 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 là.
Il est sorti en 1997.
Voilà. C'est vrai. Micha, tu l'as vu?
Oui.
Et alors, t'en as pensé quoi?
Bah, tu sais, ça m'a pas vraiment marqué. Je que c'était
est-ce que
bon,
la SF mais... t'intéresse, tu m'as
bah, je vais pas courir pour voir un film SF, mais j'en ai vu pas mal, oui.
Là,
mais...
c'est de la SF light. Hein.
Oui,
c'est
light.
Vraiment,
c'est vrai, c'est
y
light.
Il n'y a pas de vaisseau spatial.
C'est de l'anticipation de société.
Voilà.
Oui.
C'est,
non,
c'est
mais
un
c'est un bon
proche.
Film, mais c'est pas un de mes films préférés. Quoi.
Comme tous les Fahrenheit, les Brave New World 1984, c'est juste une question de... on va prendre notre présent avec juste un tout petit changement et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment juste l'idée de bon bah voilà, on maîtrise la génétique, quel va être le problème. Mais là encore, le film peut être vu à beaucoup de niveaux différents, donc à la fois l'enquête, à la fois la question de qu'est-ce que ça va devenir si la génétique devient prépondérante, ou la relation entre les personnages, qui est vraiment, moi, ce qui m'a marqué. C'est pas pour ça que je l'ai vu à la base, mais c'est vraiment ce qui a fait que j'ai regardé une quinzaine de fois ensuite. Trollin ?
Moi, ça m'avait bien plu aussi. En même temps, ça fait très longtemps, donc j'ai pas non plus énormément de choses à dire dessus, surtout qu'on a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que ça m'a marqué, j'arrive à me souvenir de détails maintenant.
Moi, ça m'avait bien plu aussi, en effet, rien qu'à reparler, j'ai pas mal de scènes qui reviennent. Pourtant, je crois que je l'ai vu que deux fois. Et bons acteurs, bon scénario, l'image était sympa, l'ambiance était bien dark, on stressait un petit peu, c'était un bon thriller.
Alors moi, je l'ai pas vu en entier. Mais je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait particulièrement plu, c'était qu'on était dans un futur d'anticipation où on était dans l'eugénisme total, donc une espèce de perfection qui était quelque part liée à de la froideur, parce que je trouvais que toute la réalisation, il y avait un côté hyper froid, hyper lisse.
Je dirais même plus que c'était très aseptisé dans la...
C'est ça, c'est complètement aseptisé.
dans la réalisation, les décors, l'ambiance.
Et c'est ce que je disais, tous les acteurs sont froids entre eux, mais on sent bien que derrière, il y a des choses. Et
ils n'en pensent pas moins.
Voilà, c'est vraiment sympa. Sur le chat, on parle de The Island, et ça va péter, donc je pourrais pas dire pourquoi, mais The Island m'a quand même plutôt déçu. Déjà parce qu'il y a de la pub tout le temps, et puis je crois que c'est Michael Bay.
Ça m'a fait chier, The Island.
Mais c'est surtout de l'action, quoi. Tu cherches pas grand chose d'autre dedans. Communication
failure. Et nous allons donc conclure. N'oubliez pas d'aller nous mettre une note, commentaire sur iTunes.
Dis déjà pourquoi on s'arrête au milieu de la chronique.
Oui, on s'arrête au milieu de la chronique parce que nous avons quelques problèmes techniques d'enregistrement. C'est pourquoi on va conclure plus rapidement que prévu. On rattrapera ça la prochaine fois. Donc n'oubliez pas d'aller mettre une petite note ou un commentaire sur iTunes. On remercie d'ailleurs les derniers qui l'ont fait: Admec, Azo, Bruno Twittos, Captain Web, Alefto, Clément, Babozor, Swan et tous les autres pour leurs commentaires très sympathiques. On vous rappelle qu'il y a le blog, là...
Poulco nous fait remarquer qu'on ferait mieux de pas demander d'aller mettre des notes après.
www.bazincast.com la fanpage Facebook, facebook.com/bazincast. On a mis quelques photos des enregistrements et différents événements récents, dont le free podcast qui s'est passé. Et bien sûr, le site et le forum.
Putain, on était mieux chez mamie.
FreePod. On remercie tout simplement... tout spécialement le Captain Web et Quacos pour nous accueillir au sein de cette cave pour l'enregistrement. Et on remercie évidemment Dirène d'être venue casser les pots et...
Mais en fait, tu sais pas, peut-être que c'est moi le chat noir qui est tout...
Essuyer les plâtres. T'es envoyé par la concurrence.
C'est ça.
On a prévu un épisode particulier, c'est pour ça que l'on avait invité Dirène, et donc elle sera réinvitée au prochain épisode pour parler tout spécialement des métiers du jeu vidéo, du fait de travailler dans les jeux vidéo, avec aussi notre ami Trollin. Donc nous aurons deux intervenants.
C'est quand même cool d'être invité à son propre podcast.
Exactement, pour pouvoir parler de tout ça. On a aussi prévu un petit IRLPG. Bref, plein de choses sympathiques, et ce sera pour la prochaine fois. Ciao à tous, et à dans deux semaines. Le merle, mon cœur. Putain, on a passé, une heure et demie avec Quaco sur le border. Et vu qu'il est parti, si ça plante, on est dans le caca.
Au final, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas de problème. Comme la dernière fois, quand on n'était pas en direct, c'était mais plus que fait de la merde.
Et Krillin a beaucoup, beaucoup aidé, hein, comme d'habitude.
Oh, bah non, moi, je m'occupe pas de ça. Hein. Oui, je
il
regarde.
Il a trouvé des distractions beaucoup plus intéressantes.
Ah, c'est incroyable.
Trop du
attends.
Cul.
Regarde.
J'ai reçu le jingle.
Ok, on vous mettra que celui-là. Hein.
C'est parti.
Putain, j'aimerais pas être celui qui va faire le montage.
Tu me dis quand, enfin, genre, tu me dis quand il y a un bip.
Attends.
Alors parti comme c'est parti, vous avez raison d'écouter en live parce que probablement il y aura rien d'enregistré à la fin des 3 heures. Donc vous serez les seuls, les 8 seuls à avoir entendu le truc.